Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. La crise générée par le mouvement des Gilets jaunes m'a donné envie aujourd'hui de vous raconter une histoire de désobéissance civique. Ce jour du mois d'août 1999, où José Bové et ses amis éleveurs de brebis de l'Aveyron ont démonté pièce par pièce le McDonald's de Millau. Quand ils font ça, bien sûr, ils savent qu'ils sont hors la loi. Ils savent que ça va forcément se terminer devant un tribunal. Et ils le font quand même. C'est ça, la désobéissance civique, faire fi de la loi parce qu'on croit que son combat est juste. Et aujourd'hui, une partie au moins des Gilets jaunes est dans la même démarche. Ils manifestent où ils veulent, quand ils veulent, ils cassent, ils mettent le feu, ils affrontent la police en assumant les conséquences puisqu'ils pensent que leur cause est juste. Et d'ailleurs, toute cette semaine, ils se sont retrouvés par centaines devant les tribunaux. Je vais donc vous raconter le démontage du McDo de Millau en août 1999 et pour le débrief, eh bien, je serai avec José Bové lui-même, que je salue. Bonjour, monsieur Bové.
Bonjour.
Et à tout à l'heure, j'ai écrit cette histoire avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
La scène se passe au cœur de l'été 1999, à la terrasse d'un petit café de Sainte-Afrique, dans l'Aveyron. Sur la table, il y a des bières bien fraîches et quelques pastis. Et autour de la table, Joseph, le porte-parole du syndicat des producteurs de lait de brebis, et six de ses camarades syndiqués. Et ça parle fort, et ça fait des grands gestes avec les bras. Et de quoi ça parle, Boudu ? De la décision des États-Unis de surtaxer les produits agricoles en provenance de l'Europe, pour se venger du refus des Européens d'importer de la viande américaine aux hormones. Mesure de rétorsion qui touche entre autres le Roquefort au bon lait de brebis. Et ça, à Sainte-Afrique et dans tout le coin, ça passe mal. Ou que ça passe mal. Il y en a un qui dit « Ça me rend fou, moi, cette industrie alimentaire et le MEDEU qui prend en otage nos produits de qualité. » Et Joseph, le porte-parole du syndicat, qui répond « Faut qu'on se remue, les gars. Faut qu'on bouge. » Ce Joseph, en vérité, tout le monde l'appelle José. José Bové. Mais son vrai nom, c'est Joseph Bové. C'est pas vraiment un gars du coin. Il a pas l'accent. C'est un néo-rural, le fils d'un chercheur et d'une enseignante, mais tout de même installé dans l'Aveyron depuis 20 ans. Une grande gueule avec une trogne de Gaulois plutôt sympathique, des yeux bleus perçants, des bacchantes de phoque et toujours la pipe aux lèvres à la Popeye. Donc José Bové a dit « Faut qu'on se remue les gars ». Et là, il y en a un qui a une idée. Il y a le McDo qui se construit à Millau et qui va pas tarder à vendre sa merde là. Il y a peut-être un truc à faire de ce côté, vous pensez pas ? Ah ouais ? Ah ouais, c'est bien ça. C'est symbole contre symbole. C'est notre AOC de Roquefort contre un groupe standardisé industriel. Ah ouais, ça parle. Ouais mais bon, McDo, tu voudrais faire quoi ? On va pas le faire sauter. Le faire sauter, non. Mais on pourrait peut-être le démonter. Et là, les gars se bidonnent. Ils s'imaginent un tournevis et une clé à molette à la main en train de mettre le McDo en kit comme un meuble Ikea. En tout cas, ça aurait de la gueule. Mais pourquoi on ferait pas notre coup à Paris, hein ? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller foutre un peu le boxeur dans le McDo des Champs-Élysées ? Non, faut faire local. C'est pas en allant faire du bruit à la capitale qu'on touchera ce que ça concerne vraiment, non. C'est les éleveurs d'ici que ça concerne. À la fin de l'apéritif, c'est décidé. Ils démonteront le McDo de Millau le 11 août prochain, dans un mois. Ce sera une grande fête. Pour calmer les flics, on fera venir les femmes et les enfants, on distribuera du roquefort aux curieux de passage, emballer ses pesées. Ce sera une grande kermesse. les 7 syndicalistes agricoles sont sur le point de se quitter. Et là, il y en a un qui tique.
Hé les gars, on a un petit souci. Le 11 août, il n'y a pas une éclipse totale de soleil qui est prévue? Faudrait pas qu'on se fasse éclipser par l'éclipse.
Tout le monde se marre. Et donc, ce sera le lendemain, le 12 août. Et quelques jours plus tard, ils l'annoncent. Ils auraient pu le garder secret. Non, ils jouent carte sur table.
Si les taxations américaines ne sont pas stoppées, nous démonterons le McDonald's de Millau le 12 août, à partir de 11h du matin.
Et José Bové argumente auprès des journalistes.
Si les Américains vont au bout, ça va affecter 2600 exploitations, 2600. Et ce qui est en jeu, ce sont 10 000 emplois liés à l'industrie du Roquefort, dans toute la région. On va pas se laisser faire.
Voilà, le coup est parti. La nouvelle fait le tour des réseaux militants du coin. Et d'ailleurs, si tout va bien le 12 août, ils seront 300 à jouer de la clé à molette. Et du coup, au siège de McDonald's France, on se rencarte sur ce José Bové, qui en 1999 n'est pas très connu, mais pas totalement inconnu non plus. Un mois plus tôt, à Montpellier, il a détruit une serre de plants de riz transgéniques. Et il a été mis en examen. C'est le genre de type qui dit ce qu'il va faire et qui fait ce qu'il a dit. Les renseignements généraux, bien sûr, sont sur le coup. Et ils appellent José Bové avec une drôle de proposition.
Monsieur Bové ? Voilà, on vous propose une alternative. Pourquoi est-ce que vous brûleriez pas l'effigie de McDonald's sur la place publique? Le symbole serait pas mal non plus.
L'effigie de McDonald's?
Mais oui, vous savez, le clown, Ronald McDonald's. Même pour vous, hein, ça éviterait les problèmes, quoi, d'ordre judiciaire. Et puis entre nous, la direction de McDonald's est disposée à vous fournir le clown.
Les types ne connaissent pas l'animal.
Non mais depuis quand vous organisez des manifs, vous? Vous savez quoi? Si vous voulez manifester, eh bien faites-vous plaisir. Allez brûler votre clown en carton-pâte, là. Moi, je m'en tiens au démontage du McDo.
Incroyable séquence. Véridique, hein? Juré. Et puis arrive le 12 août. Et les premiers paysans débarquent devant le McDo de Millau au petit matin, sous un ciel bleu, sans nuages. Le temps idéal pour une kermesse. Certains arrivent en tracteur. Et sur l'un des engins, on a installé une boîte de roquefort géante, sur laquelle il est écrit « Gardarem Roquefort, non aux surtaxes ». José Bové est là, bien sûr, juché sur son tracteur, tout sourire, en t-shirt, avec sa pipe aux lèvres, détendu et applaudi. Il y a même une fanfare. Il y a du monde, hein, entre 300 et 400 personnes. Et pas que des paysans, beaucoup de femmes, des enfants, ça rigole, c'est joyeux, une kermesse. Au bord de la route, on distribue des tartines de roquefort aux automobilistes qui ralentissent devant le McDo, amusés. Intrigué aussi. Et à 11h, ben c'est parti. Le démontage commence. Les militants se mettent à déboulonner le bâtiment, hilar, rigolar, contents de leur coup. Et que fait la police? Eh bien, elle est là, hein. Pas une compagnie de CRS, hein. Deux flics du coin et une poignée de gendarmes. On leur a demandé de s'assurer que tout se passe bien, sans dérapage. Rien de plus. À un moment, tout de même, l'un des policiers va s'inquiéter de les voir démonter les canalisations, les vitres, la toiture, le câblage électrique.
T'inquiète pas, hein. On fait ça proprement.
Ok. Et le pire, c'est que le gérant du McDo est là aussi. Et il assiste impuissant au démontage de son restaurant tout neuf. Il n'est même pas totalement fini. Il allait l'ouvrir dans quelques jours.
Aujourd'hui, moi, les problèmes communautaires et internationaux au niveau commerce, ça me dépasse complètement. Moi, je suis un chef d'entreprise local ici qui doit recruter 35 personnes.
Oui, qui a reçu une quarantaine en bas et qui fait travailler aucune entreprise locale pour qu'on soit sur McDo.
Alors, allez voir le panneau. Hein,
oui, bah, justement, tout le monde a vu le panneau.
Et à 14h, c'est fini. Le McDonald's n'est pas totalement détruit. Il reste quelques poutrelles en métal, quelques cloisons. mais il n'y a plus de toit, par exemple. Et le reste, tout ce qu'ils ont démonté est chargé sur des remorques, direction la sous-préfecture de Millau, où José Bové arrive en vainqueur.
Aujourd'hui, nous sommes déjà 3000 pour dire ce combat est un combat juste. Nous avons eu raison de démonter ce McDonald's et nous serons prêts à le refaire s'il le faut.
3000, c'est pas sûr. Mais il y a du monde, hein. José Bové attrape un mégaphone et il enchaîne.
Si on s'attaque aujourd'hui à McDo, c'est parce que McDo est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de la merde et qui veulent faire crever les paysans.
Voilà, c'est fini. Les éleveurs de brebis de l'Aveyron ont réussi leur coup. On parle d'eux à la télé, à la radio, dans les journaux. En matière d'agit-prop, c'est très réussi. En revanche, chez McDonald's, on présente l'addition. 1 million de francs, 150 000 euros. Donc, ils portent plainte pour dégradation d'un bien privé. Et il y aura un procès, bien sûr. Dans les jours qui suivent, José Bové et ses amis obtiennent le maximum d'effets médiatiques. La radio, les télés, les journaux se régalent de cette histoire de McDo démonté.
La cible, un restaurant en construction de la chaîne McDonald's. Plusieurs dizaines de personnes, essentiellement des producteurs de lait de brebis, ont saccagé le chantier. Les manifestants, proches de la Confédération paysanne, entendaient ainsi répondre à la décision américaine qui impose 100% de droits de douane sur le fromage de Roquefort. Rétorsions douanières qui ont fait suite à l'interdiction européenne d'importation de bœuf aux hormones américains.
Mais l'histoire n'est pas racontée que par les journaux français. Elle est racontée dans le monde entier, et notamment aux États-Unis. Et ça tombe bien, José Bové, gamin, a vécu 3 ans en Amérique. Il parle anglais, et pas mal en plus.
We want Europe to say we don't want to go back to the negotiation, the WTO negotiation, if this doesn't change.
Et puis là-dessus, on est au mois d'août. Le 15 août, José Bové part en vacances, sur la côte atlantique, en famille. 4 jours plus tard, il est en train de prendre son petit-déj sur la terrasse, et il entend un flash info à la radio. 4 de ses camarades viennent d'être arrêtés. Il ne peut pas rester les doigts de pied en éventail alors que ses amis sont en garde à vue. Et donc il appelle son avocat et il décide de rentrer à Millau, de se rendre et d'assumer. Mais comme il est déjà sous le coup d'une condamnation pour le saccage de champs d'OGM, il est en état de récidive. Et donc, à la fin, les autres ressortent libres, mais pas lui. Lui, il file tout droit à la prison de Villeneuve-les-Maguelones, grande bâtisse moderne sur le bord de l'autoroute près de Montpellier. Où, entre nous, il est accueilli en héros, hein, par les détenus, mais aussi par les gardiens. Et assez vite, on lui propose une libération sous caution. La Confédération paysanne est d'accord pour payer. Mais lui refuse. Pas de passe-droit. Même le directeur de la prison tente de le convaincre.
José, franchement, tu devrais payer ta caution. T'as rien à faire ici.
Et d'ailleurs, le chorégraphe Maurice Béjart est prêt à payer la caution.
S'il a besoin, je suis là et je le libérerai. Et je pense qu'il faut qu'il continue son combat avec une justesse. Et puis je dirais, le roi Henri IV, qui était un grand roi, a souhaité aux Français la poule au pot, et puis c'est tout.
Mais finalement, José Bové n'aura pas besoin de l'argent de Maurice Béjart. Parce qu'en quelques jours, de l'argent arrive des 4 coins du monde, du Japon, d'Inde, d'Afrique et même des États-Unis. Et finalement, il accepte sa libération sous caution, il paye 105 000 francs et il sort de prison le 7 septembre. Et il y a un monde fou qui l'attend devant la porte de la prison.
Après 20 jours d'incarcération, José Bové est libre. À la sortie de la prison, sa femme et sa fille.
quelques embrassades, mais rapidement, il les abandonne pour reprendre son discours de leader paysan.
Les gens qui étaient en prison avec moi m'ont dit « C'est bon, t'as gagné, là, c'est pas la peine de rester. Il faut mieux que tu sors. »
Aujourd'hui, autour d'un casse-croûte, il estime que son rôle sera plus important dehors que dedans et demande à rencontrer Jacques Chirac et Lionel Jospin.
José Bové est libre, il est devenu un héros, il y a du monde derrière lui, mais dans l'immédiat, il s'accorde un peu de répit.
Pour une après-midi, José Bové a abandonné ses camarades, parti manifester à Millau. Discussion avec son associé sur la santé du troupeau de brebis. Puis retour avec les siens, le temps d'une soirée. Mais il se dit prêt à les quitter de nouveau, si son combat l'impose.
Personne n'a envie d'aller en prison de gaieté de cœur. Mais bon, si on doit en passer par là, c'est quelque chose que j'assumerai à nouveau. Et c'est pas le fait d'y être passé qui m'empêchera de mener des actions.
Dès cette nuit, José Bové quittera son plateau du Larzac pour rejoindre Paris et donner de nouvelles conférences.
Et puis 10 mois plus tard, vient le moment d'assumer totalement. Le moment du procès devant le tribunal correctionnel de Millau, devant lequel José Bové risque clairement de la prison ferme. Et notez que le matin du procès sort un sondage CSA pour le journal Le Parisien. 56% des Français jugent que le combat de Bové est proche de leurs préoccupations. Le procès s'ouvre le 30 juin 2000 à 14h devant le tribunal correctionnel de Millau. Il s'agit de juger José Bové et 9 de ses acolytes. Ils arrivent au palais de justice, jugés sur une charrette façon carnaval, barrés d'une banderole, Roquefort d'abord, McDo, pas d'accord. 15 000 militants sont là pour les accueillir dans un joyeux brouhaha.
Clément Fabregue, porte-parole de la Confédération Paysanne, et en tant que porte-parole de la Confédération Paysanne, nous revendiquons entièrement l'action du 12 août 1999. Par le symbole du McDonald's, nous avons dépassé le clivage des paysans, des ouvriers et des chômeurs. Le syndicalisme a dépassé le corporatisme, et nous voyons bien ici tout le soutien des travailleurs, des consommateurs, des chômeurs. Notre action a donné quelque part la voix aux gens qu'il avait perdu.
José Bové est ensuite entré au tribunal avec 9 sympathisants accusés comme lui d'avoir détruit le chantier du McDonald's de Millau au mois d'août l'an dernier.
La ligne de défense de Bové et de ses amis est très simple. On a trop dramatisé cette affaire. Il n'y a pas de quoi en faire des caisses. On parle d'1 million de francs de dégâts. C'est pas vrai. On exagère. Il n'y a pas eu d'expertise. Le gérant du McDonald's abuse.
Les avocats, ils sont 6, ont bataillé ferme pour minimiser l'ampleur des dégâts. Tous ont fortement contesté les photographies projetées dans la salle. Pour Maître François Roux, les dégâts ne sont pas importants.
On nous a présenté une série de photos qui montrent un chantier en construction. Et on essaye de faire croire qu'il s'agit de dégradations qui auraient été faites. Qu'est-ce qui a l'air plus dégradé qu'un chantier en construction ? On voit des murs qui ne sont pas terminés, des câbles qui ne sont pas posés. Donc je crois que les photos qu'on a voulu nous présenter ne signifient strictement rien.
C'est bien joué, mais vu par les juges, ça reste la destruction d'un bien appartenant à autrui. Ils ne font qu'appliquer la loi.
Europe 1, il est 6h07, beaucoup de réactions ce matin après la condamnation de José Bové à 3 mois de prison ferme pour le saccage du McDo en construction de Millau dans l'Aveyron. C'était en août 99. Le leader de la Confédération paysanne a décidé de faire appel. Marie-Georges Buffet s'est fendue d'un communiqué pour exprimer sa sympathie. François Hollande parle de jugement sévère. En dépit de cette condamnation, José Bové et 300 de ses partisans ont quand même fait la fête hier soir près de Millau et le leader de la Confédération paysanne garde le moral.
J'ai ressenti ça comme une injustice, j'ai ressenti ça, je me suis mis moi plutôt à la place du juge, je me suis dit ce juge n'a rien compris à ce qui s'est passé depuis un an, ce juge n'a pas entendu les gens qui étaient à Millau le 30 juin, et en fait j'étais déçu pour lui parce que je crois que par ce jugement, eh bien il est passé à côté d'une réalité nouvelle qui est l'émergence de contre-pouvoirs citoyens partout sur la planète. Je ne redoute pas aujourd'hui de retourner en prison. J'ai fait appel, donc cela est remis à plus tard. Mais si je devais retourner en prison pour cette action syndicale, j'irais comme j'y suis allé la première fois, c'est-à-dire en sachant que j'avais raison, en sachant qu'aujourd'hui, il y a un mouvement très large qui est à l'extérieur et que si je dois être en prison, eh bien, ça ne fera que renforcer encore plus ce mouvement. Donc, je n'irai pas de manière attristée. Bien sûr, ce n'est pas amusant d'être derrière des barreaux, même si on n'a rien fait de répréhensible. Mais en tout état de cause, je ne crains pas cet état de fait.
José Bové est donc condamné à 3 mois de prison ferme. Je vous lis les attendus du jugement. Compte tenu de la volonté persistante du prévenu à vouloir enfreindre le code pénal, il convient de le condamner. La peine prononcée est de nature à lui faire entendre raison. Ses camarades sont moins lourdement condamnés que lui. Des peines avec sursis pour 3 d'entre eux, et des amendes pour 5 autres, et même une relaxe. Les condamnés font appel. Un nouveau procès a lieu à Montpellier 9 mois plus tard. La peine de José Bové est confirmée. 3 mois de prison ferme. Mais il ne retournera pas en prison.
Retrouvez Christophe Ondelatte 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.
Et je suis donc avec José Bové en direct au téléphone. Je vous propose de faire les choses en 2 temps, si vous voulez bien, José Bové. J'ai d'abord des questions à vous poser sur cette opération-là. Et puis, si vous le voulez bien, après, on étirera la discussion jusqu'au gilet jaune. Ça vous va ?
Impeccable.
Alors, commençons peut-être par les attendus de ce jugement qu'on vient d'entendre. Je les trouve bien intéressants. La première phrase des attendus dit: compte tenu de la volonté persistante du prévenu à vouloir enfreindre le code pénal, il convient de le condamner. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique ?
Écoutez, c'est la logique en tout cas du tribunal. Et c'est vrai qu'en France, je dirais que c'est un peu la première fois que la désobéissance civique est prônée et où on dit très clairement on enfreint la loi en toute connaissance de cause, et on assume à visage découvert notre responsabilité. On avait déjà, au moment des fauchages d'OGM, à chaque fois que nous avons fauché un champ, et d'ailleurs en 2008, ça a abouti à l'interdiction des OGM en plein champ en France, eh bien, on remettait aux gendarmes qui étaient sur place la liste de tous les participants pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Et ça a été étonnant parce que, au fur et à mesure des procès, l'argument du tribunal de Millau qui est de dire, en le condamnant à de la prison ferme, eh bien demain il arrêtera parce qu'il ne voudra pas retourner en prison, cet argument évidemment n'a pas fonctionné.
Oui, c'est la deuxième phrase des attendus qui dit « la peine prononcée est de nature à lui faire entendre raison ». Non.
Eh bien, écoutez, non, puisque j'ai été condamné au moins à 10 reprises ensuite. Et justement, là, il y a peut-être une petite erreur juste à la fin de l'évocation qui, elle, est tout à fait parfaite et reflète vraiment la réalité de ce qui s'est passé. Mais j'ai été effectivement réincarcéré en 2002 pour accomplir cette peine de 3 mois.
Ah, vous l'avez faite, finalement ?
Et je l'ai faite, puisqu'en fait, j'avais pris 3 mois ferme, j'avais fait 3 semaines de préventive. Et chose invraisemblable, hein, puisque ça n'arrive quasiment jamais, on m'a incarcéré pour terminer cette peine. Et je suis donc descendu en tracteur avec tous mes amis jusqu'à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone, où j'ai laissé mon tracteur devant l'entrée et je suis entré dans la prison.
Tout ça donc, pour dire, José Bové, que votre incarcération et votre condamnation à de la prison ferme est la suite logique, parfaitement assumée. À la limite, vous n'auriez pas été condamné à de la prison ferme, vous n'auriez pas eu tout ce que vous souhaitiez.
Je pense que ça fait partie de l'action non violente et de la désobéissance civique. C'est-à-dire que si on enfreint la loi, on assume les conséquences de son acte. On n'agit pas pour se dire on espère qu'on n'ira pas en prison. Le fait d'aller en prison fait partie même de l'action. C'est une façon de continuer l'action. Alors, en France, c'est vrai que ça désoriente. aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été, qui est beaucoup plus fréquent. Alors, des illustres personnes auxquelles je ne me compare pas, parce qu'on est très modeste par rapport aux actions qui ont été menées. Mais je dirais que ça a été toujours la stratégie du mouvement non-violent, que ce soit pour les droits civiques avec Martin Luther King ou contre la guerre du Vietnam. Beaucoup de mouvements aux États-Unis se sont construits sur la désobéissance civique. Le premier, d'ailleurs, des personnes qui a écrit, qui a théorisé cela, s'appelait Henry David Thoreau. Il habitait pas très loin de Boston et il a été incarcéré parce qu'il avait refusé de payer ses impôts, parce que ses impôts servaient à financer la guerre et à continuer l'esclavage. Donc je dirais que la désobéissance civile, c'est un acte volontaire, individuel, qui se fait souvent dans un cadre collectif, à visage découvert, toujours de manière non-violente, c'est-à-dire aucune violence sur les personnes et aucune dégradation. On agit, on assume, on va en prison, et la prison, eh bien, c'est une autre façon de continuer le combat. C'est ce que vous avez d'ailleurs très bien dit. Quand je suis arrivé en prison, à chaque fois, eh bien, j'ai été accueilli aussi bien par les détenus, mais aussi par les surveillants. Et ça, évidemment, pour l'État, ça posait un vrai problème.
Alors moi, il y a un premier épisode, José Bové, qui m'intéresse bien. C'est le moment où vous décidez de démonter le McDo et où vous l'annoncez.
Alors, ça fait partie aussi de la stratégie de l'action non-violente et de la désobéissance civique. On agit à visage découvert et on annonce ce que l'on va faire. Ensuite, c'est à l'État de réagir. C'est à lui d'assumer sa responsabilité. Nous, on dit très clairement les choses, comment on va le faire, le jour où on va le faire, l'heure à laquelle on va le faire. Je crois que ça, c'est très important, parce que ça permet de mettre chacun devant ses responsabilités.
Mais vous savez qu'on va vous laisser faire au moment où vous l'annoncez ?
Au moment où on l'annonce, on pense que le jour J, le McDonald's sera... Il y aura des grillages autour, des palissades, et qu'on ne pourrait pas rentrer. Et que ça paraîtrait assez logique, et qu'il faudrait certainement escalader, que ça ne serait pas forcément facile. Peut-être qu'on échouerait ce jour-là, et qu'on serait obligé d'annoncer qu'on reviendra un autre jour, et qu'à force de faire... on arrivera à mener notre action. Mais l'important, c'est de bien montrer sa détermination, eh bien, c'est d'aller jusqu'au bout du processus. Si, par exemple, c'est arrivé, et c'est un mouvement qu'on a organisé il y a quelques années avant, quand on luttait contre l'extension du camp militaire du Larzac, eh bien, on avait incité les gens à renvoyer leur livret militaire. On avait même lancé une grève partielle de l'impôt pour financer la lutte, et les gens soustrayaient volontairement une partie de leurs impôts en disant « Nous n'acceptons pas de payer l'impôt dans sa totalité parce que nous ne cautionnons pas l'extension du corps militaire. » Donc c'est quelque chose qui fait partie fondamentalement de l'action. On assume, on annonce et ensuite on agit.
La scène où les renseignements généraux vous proposent de brûler une effigie en carton-pâte de Ronald McDonald est vraie, n'est-ce pas ?
Elle est entièrement vrai, et c'est vrai que ça a été un moment absolument incroyable. J'avais des bonnes relations avec les renseignements généraux, et je dirais avec les gendarmes et la police aussi, parce qu'ils savaient que quand on menait une action, on était prêt à le faire jusqu'au bout. Une autre fois, quelques temps avant, le Tour de France était passé à Millau. L'étape se terminait là, ils m'ont dit « vous allez bloquer le Tour de France ». Alors je dis, c'est une possibilité, mais on vous offre une alternative. Et je crois que ça aussi, c'est toujours important de pouvoir offrir une alternative. Et on leur a dit très simplement, si donner un cadeau au dernier de la course, parce que nous, les paysans, nous sommes les derniers au niveau des revenus, les éleveurs de brebis notamment, eh bien, il n'y aura pas de blocage. Et au final, et je crois que c'est jamais arrivé...
Après, vous avez remis un prix ?
On a pu remettre un prix, un agneau, au dernier de la course, le podium est resté, et quand le dernier de la course est arrivé, eh bien, il a été annoncé qu'il aurait un prix parce qu'il était aussi méritant que le premier.
Question sur la victime de ce démontage intempestif, le gérant du McDonald's, il ne vous intéresse pas ?
Au moment où nous menons l'action, il a déjà un autre fast-food à Rodez. On voit bien qu'il est gêné. Et évidemment, il fait jouer la corde sensible. Et au final, au moment où le procès a lieu un an après, eh bien, McDonald's France et le gérant ont retiré
leur partie civile.
Voilà, ce qui fait qu'il n'y a aucune demande financière.
Au final, José Bové, qu'est-ce que ça a changé vis-à-vis des surtaxations de produits agricoles européens par les États-Unis ?
Alors, ce que ça a changé, c'est que dès l'annonce, dès que je suis sorti de prison, j'ai annoncé que la prochaine étape sera le rassemblement à Seattle contre l'Organisation mondiale du commerce, puisque c'est au nom de l'Organisation mondiale du commerce que les États-Unis ont pu surtaxer. Et donc, on a expliqué clairement qu'il fallait changer les règles, et ça a été vraiment la plus grande manifestation au niveau international jamais organisée à l'époque, puisqu'on s'est retrouvé des centaines de milliers de personnes à Seattle, et qu'au final, les pays du Sud ont dit « nous, on n'accepte pas ces règles », et Seattle a été un échec. Mais il a quand même fallu ensuite 12 ans pour faire en sorte que les surtaxations s'arrêtent. Et c'est tout à fait étonnant, c'est qu'au moment où elles se sont arrêtées, on a eu un dernier vote au Parlement européen. À ce moment-là, j'étais déjà élu au Parlement européen, et donc j'ai pu voter pour la fin des surtaxations. Mais le problème n'est pas réglé sur le fond, parce qu'à n'importe quel moment, parce que ces règles de l'OMC vont complètement à l'encontre de l'intérêt général, eh bien les États-Unis pourraient reprendre à nouveau des sanctions de ce type-là.
Alors José Bové, je suis vraiment intéressé de savoir quel parallèle est-ce que vous faites vous-même entre les citoyens qui à l'époque se sont affranchis de la loi pour mener ce combat-là, dont vous étiez, et les citoyens d'aujourd'hui qui eux-mêmes s'affranchissent de la loi pour mener le combat contre la vie chère.
Alors, je suis assez gêné pour en parler parce que quand ce mouvement a démarré, il a démarré, on s'en souvient, il y a quelques semaines, sur la question des taxations carbone et l'augmentation des taxes sur le pétrole au moment même où le prix du pétrole était au plus haut. Et donc, en fait, on a une réaction spontanée. C'est vrai qu'il part souvent des milieux ruraux ou des zones extérieures aux villes, mais très rapidement, ça devient un ras-le-bol généralisé, une spontanéité un peu partout, avec des choses qui peuvent se passer sympathiquement et d'autres tout à fait de manière négative. Et je dirais plus que là, on a affaire à une révolte. Et pour moi, il n'y a pas de mot péjoratif dans le mot révolte, mais qui n'est pas construite, où il n'y a pas de ligne claire avec un objet précis atteignable. Je dirais que ce qui est important dans la non-violence et dans la désobéissance civique, c'est qu'on a un but précis, on veut agir pour obtenir quelque chose.
Vous êtes adepte absolu de la non-violence ?
Pour moi, la non-violence, c'est quelque chose de fondamental. Et je dirais que dans le cadre d'une démocratie, eh bien effectivement, il y a des règles. À partir du moment où on désobéit aux règles, on assume ce que l'on fait. Alors, quelle forme d'action employer ? On peut parler, effectivement, quand c'est massif, par exemple, quand on bloque des péages d'autoroute et qu'on fait passer les gens gratuitement. Je l'ai vu à plusieurs reprises que tous les tickets étaient ramassés et ensuite redonnés à l'entreprise. Très bien, on peut dire que ça, c'est un acte de désobéissance qui se fait dans le cadre tout à fait correct. Quand on voit ensuite des slogans sur la dissolution du Parlement, sur la demande de démission du président de la République, et que ça dégénère ensuite en bataille rangée dans les rues de Paris, mais pas que, là, on a eu il y a quelques jours le saccage de la préfecture du Puy-en-Velay, on sort complètement de ce cadre-là, et on a bien vu la tentative et beaucoup de récupération d'un certain nombre de mouvements extrémistes et notamment nationalistes. Et ça, effectivement, je dirais que c'est la limite de ce type de mouvement. On a une révolte, il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'organisation. Et ensuite, n'importe qui, n'importe comment peut tenter de récupérer. Et à partir de là, on ne sait pas où ça va. Et on se retrouve dans une situation où même les leaders qui ont été choisis, je ne sais pas trop comment, mais ont été choisis, ne peuvent même pas se rendre à des discussions sous menace d'être poursuivis par ceux-là même qu'ils doivent théoriquement représenter. Donc là, on a un moment très particulier qui part d'une révolte que je pense sincère de la part de ceux qui l'initient au départ, mais qui se retrouve à un moment complètement détourné, sans aucune perspective pour ces personnes, qui sont souvent des gens modestes, de pouvoir effectivement assumer même leur action, parce que effectivement aujourd'hui ils ne sont absolument plus au centre de ce processus. Et ça, je dirais que c'est dramatique, c'est-à-dire que moi je peux aujourd'hui avoir émettre une analyse différente sur le fond, sur la question de la taxation carbone qui pour moi me paraît centrale. J'ai toujours dit qu'il fallait taxer le carbone mais pas le travail. Mais quand on remet en cause la fiscalité en disant on veut plus de taxes et qu'en même temps on a besoin de plus de services publics, parce que quand une maternité ferme, bah, c'est absolument insupportable. Quand il n'y a plus de postes dans les villages, etc., etc., on a un vrai problème. Donc il faut construire différemment. Quand je dis ça, ce n'est pas pour désengager la responsabilité du gouvernement et du président qui n'ont pas été capables de répondre à un moment donné et qui se sont enfermés. On l'a bien vu au moment de l'ISF, quand on a arrêté de taxer les plus riches, ça posait évidemment un problème, c'était incompréhensible. Donc, il y a des choses que je peux comprendre, mais en réalité, à travers ces actions aujourd'hui récupérées par un certain nombre de mouvements extrémistes, c'est l'idée même de faire société qui est en train d'être remis en cause, parce que l'idée de l'impôt, c'est ce qui fait société.
Vous n'y voyez pas, vous, l'émergence d'un contre-pouvoir citoyen que vous revendiquiez en 99?
Alors moi, je suis, et j'ai toujours revendiqué, effectivement, le contre-pouvoir citoyen, à tel point que quand on était, par exemple, à Seattle, mais après aussi, souvent le pouvoir politique nous disait, nous avons été élus, que ce soit des députés, des sénateurs ou des ministres, nous avons été élus et donc nous avons la légitimité. Et moi je leur répondais que les organisations syndicales, les mouvements citoyens, les associations, on a d'abord une légitimité par le diagnostic que nous faisons de la situation, c'est-à-dire qu'on peut effectivement revendiquer en tant que citoyen, et la légitimité des citoyens n'est pas inférieure à la légitimité des gens qui sont élus. Pour autant, c'est quelque chose qui doit être organisé, où le débat s'organise. Parce que dans une société où on arrive à un blocage, où il n'y a pas de débat possible, et où seule la récupération permet ensuite d'aller plus loin, je dirais qu'on trompe les gens, et c'est ceux qui sont les plus concernés, c'est-à-dire les plus modestes dans la société, qui risquent au final d'être dépossédés de leur propre mouvement.
Merci beaucoup José Bové, j'ai adoré parler de tout cela avec vous. Merci infiniment, très bon après-midi à vous, là-bas dans l'Aveyron où vous êtes en ce moment. À demain, 14h.
Retrouvez Christophe Ondelat 7 jours sur 7 de 14h à 15h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.